Et vous avez toujours présent l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Hong à la présentation.
Bonsoir, un seul thème dans cette émission, restructuration et assainissement de la diplomatie congolaise. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères dresse un bilan amer des dossiers de certains consuls de la RDC à travers le monde. Quel est ce constat et quel est l'impact de cette restructuration dans la relance de la diplomatie congolaise? Tous nos invités sont en ligne. Il s'agit de Eddy Angoulou, ancien ambassadeur de la RDC en France et membre du bureau politique du PPRD, parti de la majorité présidentielle. José Ngbanda, député national de l'opposition, membre du parti politique RCDN et rapporteur adjoint de la Commission des relations extérieures à l'Assemblée nationale. Professeur Elikia Mbokolo, analyste politique et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris en France. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Poursuivant la restructuration et l'assainissement de la diplomatie congolaise et après examen approfondi des dossiers des 85 consuls honoraires de la RDC à travers le monde, le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué de presse, vient de dresser un constat amer de cette diplomatie. Il a ainsi annulé toutes les lettres de provision accordées aux 69 candidats consuls honoraires sur les 85 qu'elle comptait et leur a immédiatement retiré le mandat qui leur avait été confié. Les détails de ce communiqué avec Kevin Côté.
Il ressort en effet que 69 des 85 des consuls n'ont jamais obtenu l'aval dit exéquature de leur gouvernement pour pouvoir exercer la fonction de consul honoraire. Il faut signaler que pour fonctionner, un consul honoraire doit non seulement posséder une forme de mandat appelée lettre de provision que lui délivre le pays accréditant, en l'occurrence la RDC, mais surtout l'accord de son pays que lui octroie le ministère des Affaires étrangères de son pays de résidence. D'après les spécialistes en relations internationales, un consul honoraire est un citoyen congolais ou non, résident dans un pays donné. Il est désigné par la RDC quand elle constate qu'il travaille pour ses intérêts. Le consul honoraire n'est pas diplomate. Il reçoit de la RDC des lettres de provision, c'est-à-dire l'autorisation de travailler en son nom, et de son pays, il reçoit l'exéquature, c'est-à-dire l'accord. Il exerce ses fonctions pour un mandat de 4 ans, et comme avantage, il est rémunéré par la RDC et a à sa disposition une valise diplomatique.
Eddy Angoulou, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Je rappelle que vous êtes un ancien ambassadeur de la RDC en France et membre du bureau politique du PPRD, parti de la majorité présidentielle. Quelle est votre lecture, hein? Quelle lecture vous faites de ce constat?
Oui, d'abord, il faut souligner que je soutiens totalement l'action que mène son Excellence M. le ministre Tambo Mwamba sous l'autorité du Premier ministre Mojito. Et exécutant à cela la politique du chef de l'État Joseph Kabila qui veut une diplomatie dynamique. La décision que vous annoncez, qui est contenue dans ce communiqué, elle va dans le bon sens et elle est à soutenir absolument. Il faut savoir qu'effectivement, tous les ambassadeurs en place sont souvent confrontés à ce problème de consul honoraire. Et je crois qu'il y a la question fondamentale est de savoir pourquoi on en est arrivé là. Vous savez, c'est quelque part, nous réunions même après avoir accordé nos signatures à ces personnes. Aujourd'hui, on est obligé de les retirer. La question fondamentale, pourquoi dans le passé a-t-on fait cela? Pourquoi nous trouvons aujourd'hui avec 69 consuls honoraires dont que nous ne voulons plus garder. Qu'est-ce que nous avions fait avant? Pourquoi nous l'avions fait comme ça? Pour que nous soyons aujourd'hui, monsieur le ministre des Affaires étrangères soit obligé aujourd'hui de retirer la signature de la République démocratique du Congo.
Et ça,
à la fois un dérangement pour nous, parce que notre pays, une fois qu'il a donné sa parole, devrait la donner de manière définitive. Et en même temps, nous nous trouvons devant la nécessité d'assainir, comme vous le dites.
Ambassadeur,
c'est
il dit
la question de fond.
Monsieur l'ambassadeur, il dit Angoulou, on va vous redonner la parole pour effectivement répondre à cette question. Le temps de recevoir José Ngbanda, monsieur le député national, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Juste rappeler aussi que vous êtes député national de l'opposition, membre du parti politique RCDN et rapporteur adjoint de la commission de relations extérieures à l'Assemblée nationale. Peut-être avant de vous faire intervenir, si vous pouvez baisser sensiblement le volume de votre poste récepteur, parce qu'il y a un effet retour ici.
Oui, je vous écoute.
Merci beaucoup. Quelle est votre lecture à vous de ce constat que vient de dresser notre collègue Kelly, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères?
Oui, monsieur le journaliste, même si nous pouvons saluer cette mesure, mais nous sommes quand même surpris lorsque nous avions suivi ces communiqués, qu'après avoir organisé les états généraux des affaires étrangères, que plusieurs mois après, sinon plus d'une année après, que c'est seulement aujourd'hui que le ministère des Affaires étrangères se réveille pour dire que nous avions sur 85 consuls, 69 qui n'ont jamais reçu l'exécuture de leur pays. Et donc ça nous étonne parce que il est censé que le ministère des Affaires étrangères avait dans ses archives les lettres de provision qui donnaient mandat à ces consuls d'agir dans leur pays pour le compte de la République démocratique du Congo. Et donc, pour nous, c'est un étonnement.
Il faudrait signaler que toutes nos démarches pour avoir un délégué du ministère des Affaires étrangères n'ont pas abouti. Professeur Edikian Bokolo, bonsoir, vous êtes en ligne?
Oui, bonsoir, je salue mon ancien ambassadeur Ebi Angoulou et l'honorable député, membre de notre Assemblée nationale.
Vous êtes analyste politique et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous venez de suivre les deux positions, l'ambassadeur Ebi Angoulou qui salue cette mesure, mais l'honorable José Ngbanda est plutôt étonné.
Oui, alors moi je voudrais dire une première chose. J'ai une étudiante de l'Université de Kinshasa dont j'ai suivi les travaux sur quelques aspects de la diplomatie congolaise et ce que j'ai appris d'elle et de ses recherches, c'est que les archives de notre ministère des Affaires étrangères sont comme les archives d'à peu près toutes les institutions de l'État et des institutions privées très 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 mal conservées. Nous avons cherché par exemple un certain nombre de documents tels que la liste complète et exhaustive de tous les traités et protocoles auxquels le Congo a adhéré, etc. C'est très difficile à trouver quand on les trouve. Donc l'étonnement de l'honorable député correspond à un état général de choses qui fait que ce ministère, qui est l'un des ministères les plus importants du pays, souffre d'un certain nombre de carences liées, je dirais, à la gestion générale de la chose publique chez nous. Alors moi, je pense que en regardant ça un peu de l'extérieur, il y a un grand nettoyage qui est nécessaire de tous les services de l'État. Et donc, je dirais, mieux vaut tard que jamais, parce que c'est vrai que résidant à l'étranger, nous, les Congolais de l'étranger, on avait beaucoup de mal à comprendre un peu quelle était la part, le rôle de ces consuls honoraires qui, apparemment, n'avaient pas tous les instruments juridiques qu'il fallait pour travailler par rapport aux ambassadeurs. Et dans le cas de la France en particulier et de la Belgique que je connais assez bien, c'est en fait l'ambassadeur qui a tout fait, notamment l'ambassadeur Ebi Angoulou qui est là. Donc, si on veut entrer dans la norme, et je crois que dans toutes les affaires du Congo, il est impératif qu'on entre dans la norme et dans la normalité. Bon, il faut faire le travail nécessaire et prendre des mesures pour que on ne retombe pas dans la situation à laquelle on essaie de remédier maintenant.
Monsieur l'ambassadeur Ebi Angoulou, essayez de nous éclairer un peu. Quelle est la nécessité pour un État d'avoir à la fois un ambassadeur et un consul honoraire dans un pays?
Oui, tout à fait. D'abord, je voudrais absolument
maintenant en accord par rapport à ce que dit le professeur Eli Kambokolo, qu'il s'agit là d'une situation qui est générale dans nos ministères et qui date de très longtemps. Donc le député devrait très bien se souvenir que ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc mieux vaut tard, comme il l'a dit que jamais. Pour revenir à votre question, d'abord c'est très important. Vous savez, quand vous êtes ambassadeur dans un grand pays comme la France, où vous avez des grandes villes comme Lyon, comme Lille, comme Nice, qui sont très éloignées les unes des autres, un ambassadeur situé à Paris ne peut pas tout faire. Par exemple, c'est pas normal qu'un Congolais qui se trouve à Lille, le professeur Mbokolo sait de quoi je parle, soit obligé de cesser son travail là-bas, de cesser son travail là-bas, de venir à Paris, d'attendre, de revenir, etc. Donc, le consulat, qu'il soit généraux, quand on a beaucoup de moyens, ou honoraire, c'est une sorte de décentralisation qui permet d'approcher les services de l'ambassade très proche des utilisateurs. Voilà la nécessité pour un pays d'avoir des consulats généraux ou des consulats honoraires. Il y a une grande distinction, il faut savoir que le consulat général est dirigé par un diplomate du pays qui vient du ministère des Affaires étrangères, alors qu'un consul honoraire, c'est généralement un notable ou quelqu'un qui a assez de moyens et qui dit à votre pays, voilà, je peux faire ce travail-là sans une grande rémunération de votre part. En contrepartie, vous m'assurez que les avantages d'ordre diplomatique. Voilà le consul honoraire. Alors, c'est vrai que moi-même, j'étais sérieusement confronté à ce problème. J'ai dû même refuser une fois un consul honoraire. Alors que j'étais dans mon bureau en train de travailler, je viens me souvenir avec tous les documents venant du ministère des Affaires étrangères de Kinshasa en disant, voilà, je suis votre consul honoraire désigné pour telle ville. J'ai dit, ça se passe pas comme ça, j'ai besoin, moi c'est les affaires étrangères de mon pays qui doivent me notifier. Donc, il faut savoir que vraiment ça se passe un peu de briques et de brocs et que c'est pas sérieux du tout. Hein. Je ne suis pas étonné que notre pays soit obligé malheureusement de revenir sur sa parole, mais mieux vaut le faire que faire de continuer la situation de désordre. Et je crois que ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre cette situation. Et les consuls honoraires ont besoin, il faut savoir que le pays doit prendre des dispositions, suivre la même procédure que pour les ambassadeurs, c'est-à-dire demander de manière informelle, voire même officielle, une sorte d'agrément, vous posez la question au pays, est-ce que le monsieur tel ou la dame telle que nous voulons nommer consul honoraire, est-il sérieux, a-t-il le moyen, a-t-il de la crédibilité pour que nous confier notre passeport diplomatique. Souvent, malheureusement, ça ne se fait pas, c'est une procédure qui n'est pas suivie. Alors vous avez un monsieur X, une dame X, qui vient d'un pays X, qui débarque à Kinshasa, qui va faire cette démarche, entre guillemets, aux affaires étrangères, et se retrouve avec les signatures nécessaires pour devenir consul honoraire. Et j'ai été étonné d'ailleurs, un consul honoraire, vous n'allez pas vous mettre dans la banlieue parisienne, dans n'importe quelle petite ville, mais généralement dans les grandes villes. Yeah. Bon, nous avons eu des cas dans certains pays où le consul honoraire de la RDC avec le drapeau de la RDC se trouvait dans une petite ville de 2000 ou 3000 personnes, parce que la personne est venue ici à Kinshasa dans des conditions que je vous ai décrites. Mais encore une fois, je suis vraiment très heureux de voir que Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Tambo Mwamba, est en train d'assainir, a pris les choses vraiment très au sérieux, en train d'assainir, ça va, de l'image et des marques de notre pays à l'étranger.
Monsieur le député national José Nguanda, vous voyez un peu hein, tout ce bric-à-broc, comme l'a appelé l'ambassadeur Idi Angoulou, ne fallait-il pas nécessairement commencer quelque part?
Oui, mais je crois que dans son argumentaire, l'ambassadeur m'a rejoint parce qu'il ne s'agit pas là d'un fait de la gestion de nos archives, mais plutôt des décisions parfois non responsables de ceux qui gèrent le ministère des Affaires étrangères, parce que lui-même l'a reconnu, qui a eu à recevoir des consuls honoraires dont leur désignation n'avait pas respecté la procédure. Et donc, je l'ai bien dit dans mon introduction, que même si nous pouvons saluer, mais nous regrettons que nous puissions gérer, ou certaines personnes ne puissent gérer le ministère de la façon dont ils ont fait. Et donc, et aussi, la question avait, je ne comprends pas pourquoi la question n'avait pas été soulevée lors des états généraux des affaires étrangères, et qu'à ce moment-là, une année après, dans une inertie, et qu'on n'ait pas pris des dispositions pour mettre fin plutôt au mandat de cette l'honoraire, et que c'est seulement aujourd'hui que le ministre des Affaires étrangères puisse se réveiller pour dire, bon, nous avons 85 consuls honoraires, dont 69, et aussi lorsque on prend les responsabilités dans un ministère, il est fait un état délié, et je crois qu'à l'occasion, on peut se rendre compte de la situation des ambassadeurs, des consuls, des prenants, et prendre des mesures qui s'imposent pour arrêter certaines irrégularités ou certains abus. Et voilà un peu où réside mon étonnement de voir que, bon, ok, au niveau du ministère des Affaires étrangères, rien n'avait été fait, et c'est seulement aujourd'hui que ce constat vient d'être fait. Donc c'est ce que je regrette.
Honorable José Ngbanda, quel pourrait être, d'après vous, hein, l'impact de cette restructuration dans les relations entre la RDC et les pays de résidence de ces consuls honoraires?
Disons, sur le plan interne d'abord, je crois que nous avons passé par là des cas comme ça où certaines personnes ou personnalités sont supportées par le budget de l'État sans qu'ils n'apportent quelque chose à la nation. Et je crois qu'il y a lieu que nous puissions être regardants non seulement aux affaires étrangères, mais aussi dans d'autres départements. Mais je crois que il n'est pas interdit à un pays comme le nôtre, à un certain moment, lorsque les choses ne marchent pas, de s'arrêter pour dire non, nous ne pouvons pas continuer à gérer les affaires étrangères de la manière dont elles étaient gérées. Et donc, je crois que les pays où résident ces consuls doivent comprendre que ils n'ont pas accordé l'exécuture, et donc nous ne pouvons pas, le gouvernement ou le budget de l'État ne peut pas continuer à supporter de telles personnalités ou de telles personnes qui n'apportent rien au pays.
Professeur Evika Mbokolo, est-ce que, à part le fait d'avoir un impact sur les frais, hein, le budget de l'État, y a-t-il d'autres conséquences que l'on pourrait imaginer, hein, sur le plan diplomatique, par exemple entre la RDC et la France au sujet d'un consul honoraire?
Ben, je pense que si on voit les choses par rapport à un pays comme la France ou les États-Unis ou l'Angleterre ou l'Italie, dans lesquels les communautés congolaises sont assez nombreuses, je pense que ces pays-là ne pourraient que se réjouir de voir que nous mettons de l'ordre dans la maison, à la fois parce que, comme vient de le dire l'honorable, nous n'avons pas reçu, en fait ces personnalités n'ont pas reçu l'exéquature du pays d'accueil, et en même temps parce que en retirant son appui à ces personnalités, la RDC va se mettre en position de choisir cette fois-ci des gens crédibles. Vous l'avez dit, je crois, ou l'un des deux interlocuteurs, que ces personnalités peuvent être des gens de la nationalité du pays en question, donc français, américain, belge, italien, mais ça peut être aussi des Congolais ayant pris la nationalité de ces pays, et je crois surtout il faut que ça soit des gens qui aient une certaine surface. Notre pays ne peut pas se permettre de prendre n'importe qui, il faut que ce soit ou des hommes d'affaires reconnus, des notabilités, comme l'a dit Edi Angoulou, qui chacun dans sa ville est respecté, peut obtenir des avantages pour le Congo, toucher les entreprises, obtenir des organismes de développement de soutien, et travailler effectivement à
à soutenir l'action du Congo à l'étranger. Je pense que ça serait plutôt très bien vu. Parce que c'est vrai que les cas que l'ambassadeur Ediangou nous évoquait, je les connais aussi. Ça n'est pas normal qu'un monsieur qui n'est connu de personne, qui a des fins de mois difficiles et qui n'a rien comme surface sociale, représente un pays comme le nôtre que finalement parfois il ne connaît pas, dont il ne connaît pas la géographie, l'économie des transports, le climat, les maladies, les besoins de gens. C'est des choses qui ne doivent pas continuer. Et je crois que là vraiment nous sommes dans quelque chose qui est au-delà de la politique politicienne, qui est dans la consolidation de l'État, et il faut le faire parce que je crois que tout le monde va applaudir, aussi bien les Congolais de l'étranger que les pays dans lesquels nous avons des représentations diplomatiques.
Ambassadeur Eddy Angoulou, quels sont les critères pour devenir consul honoraire? Le professeur Eliké Mbokolo en a cité deux, il faut être une grande notabilité, avoir suffisamment de moyens. Y a-t-il un autre critère que vous pouvez ajouter à cela?
Oui, beaucoup. Je voudrais d'abord dire pour à l'intention de l'honorable Angouanda que naturellement nous ne sommes pas dans une discussion vraiment politique. Nous essayons de comprendre une situation. Donc, il ne faut pas affirmer que rien n'est fait ou n'a été fait. Ensuite, nous sommes quand même passés par les 1 plus 4, donc les responsabilités, elles sont au niveau national partagées. Je voudrais dire simplement, comme l'a dit le professeur Mbokolo, c'est très important de confier l'image du pays à des gens qui sont vraiment crédibles. Je voudrais vous dire un des critères. C'est quoi? C'est que il faudrait que dans la décision qu'a prise notre ministère d'améliorer les choses, de remettre l'ambassadeur au centre du recrutement, si je peux dire entre guillemets, des consuls honoraires. Parce que l'ambassadeur est dans le pays en question, il est censé connaître, avoir beaucoup d'informations par rapport auprès du gouvernement local. Donc ça c'est très important. Donc il faut pas que qu'au ministère l'ancienne pratique qui consistait à envoyer des documents au-dessus des ambassadeurs cesse absolument définitivement pour qu'on arrive à une situation normale. C'est-à-dire ce que j'ai vu, un des cas que je tiens à le signaler, c'est pas un grand secret.
Très rapidement.
Oui, tout à fait, c'était un des consuls honoraires qui avait tous les papiers reçus de Kinshasa, avait été dans un cas récusé par le gouvernement français lui-même, qui a refusé donc de lui donner
C'est-à-dire l'aval.
Parce que souvent, le pays en question se rend compte qu'on veut nommer consul honoraire un malfrat, par exemple. Et ça, c'est arrivé des cas comme ça. Alors, le pays lui-même, il est surpris de voir que ce monsieur qui n'est pas un monsieur sérieux ici, on veut lui donner un passeport diplomatique, c'est pas acceptable. Donc, il faut demander au pays où on veut implanter le consulat honoraire une enquête, le pays en question mène une enquête sérieuse sur la personnalité qu'on veut désigner. C'est pourquoi, généralement, pour ne pas se faire réquisir, on choisit des personnalités bien connues, bien respectées et qui ont pignon sur lui. Donc ça, c'est ce critère-là que d'ailleurs Eli Kambokola a parfaitement bien identifié. C'est sur celui-là que je voudrais insister.
Merci.
Le deuxième critère, comme je vous ai dit, vraiment redonner à l'ambassadeur, que ce soit même pour les demandes d'agrément. Ce n'est pas normal qu'un ambassadeur qui est en poste apprenne, parfois par le gouvernement où il est représenté, qu'il va être rappelé.
Merci.
C'est pas possible.
Merci.
Donc, il faudrait que on demande à cet ambassadeur d'introduire lui-même la demande d'agrément de son successeur. Ça n'a plus de sens. Cette amélioration, je sais que le ministre Tambo Mamba a décidé à le...
On vous l'a compris, monsieur l'ambassadeur. On vous a compris, monsieur l'ambassadeur. Vous parlez de remettre l'ambassadeur au centre du recrutement des consuls honoraires. Honorable José Nguanda, de façon générale, quel bilan dresser finalement de la diplomatie congolaise aujourd'hui?
Je crois que le bilan de la diplomatie congolaise, s'il fallait dire, il y a beaucoup de choses à faire parce que nous venons de très loin, parce que vous êtes sans ignorer que nos diplomates, à un certain moment, ils étaient abandonnés à eux-mêmes et chacun se débrouillait de sa façon, sans même qu'il soit géré par le ministère des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, il y a quand même quelque chose, il faut l'avouer, qui est en train d'être fait par le ministère des Affaires étrangères. Et nous pensons que le travail amorcé sera sérieux pour que aussi que le ministère des Affaires étrangères, donc le gouvernement de la République, puisse prendre ses responsabilités et bien encadrer toutes ces représentations diplomatiques afin que nos ambassades, oui, les ambassadeurs, soient traités comme il se doit. Parce que il faut se dire, pour le moment où nous avons passé au gouvernement, nous avons été dans certains pays, malheureusement, le constat était que ces ambassades ne recevaient pas de frais de fonctionnement et même leur salaire arrivait à peine, et ce qui ne les motivait pas à bien travailler. Et donc nous pensons qu'aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères va prendre ses responsabilités pour bien encadrer toutes nos représentations diplomatiques.
D'ailleurs, je crois que la deuxième partie de cette émission est consacrée effectivement à la relance de la diplomatie congolaise, mais je vais vous demander de répondre, hein, honorable José Nguanda, à ces quelques réactions des auditeurs. Il y a Prosper Chirouza de Bukavu Sud-Kivu qui pense que notre gouvernement ne songe pas à la diplomatie du pays, il devrait y mettre un peu plus de moyens. Kakundi Sefou Gustave de Kalemie au Katanga estime que restructurer la diplomatie c'est bien, mais le mieux est que tous ces pays avec qui nous avons des relations diplomatiques évitent d'avoir des agendas cachés. Mweka Florent de Kindu au Maniema voudrait plutôt connaître le profil pour être ambassadeur de la RDC. Très rapidement, honorable José Nguanda.
Oui, je pense en tant que législateur et organe budgétaire, généralement, ce que nous allouons au ministère des Affaires étrangères, c'est souvent un budget important pour lui permettre de bien encadrer la diplomatie. Mais malheureusement, le gouvernement, lors de l'exécution du budget, ne libère pas des fonds votés par l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui est regrettable. De telle sorte que les moyens de la politique des ministères des Affaires étrangères sont souvent limités et même l'action de nos différentes ambassades. En ce qui concerne la nomination des ambassadeurs, il faut avouer qu'il y a une sorte de clientélisme qui, je crois que ça va changer et que peut-être avec le ministre actuel, les choses pourront changer. Il y a une sorte de clientélisme qui s'est installé au ministère des Affaires étrangères où souvent on ne nommait pas les ambassadeurs, on tenait compte de leurs compétences, mais c'est parce que, bon, tel c'était un ami, tel un membre de mon parti, sans qu'il réunisse même les critères tels que je viens de le donner le professeur Mika, ainsi que l'ambassadeur Diangoulou. Donc, nous pensons qu'ils vont prendre en compte les critères objectifs pour la nomination des ambassadeurs si nous voulons effectivement que notre diplomatie soit efficace dans toutes nos représentations.
Professeur Elika Mbokolo, vous résidez à Paris. Quelle est concrètement la situation de notre ambassade là-bas, par exemple?
Bon, je dois dire, quitte à offenser sa modestie, que dans l'histoire de l'ambassade du Congo en RDC, il y a eu quelques grands ambassadeurs dans une marée de personnalités pour la plupart très médiocres. Par exemple, nous avons eu avec Monsieur Mbeka, avec l'honorable Mokolo Apombo, avec Edi Angoulou lui-même, nous avons eu de grands ambassadeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? c'est-à-dire des gens qui venaient à Paris en raison à la fois de leur poids politique au Congo, dont ils étaient sûrs d'avoir l'appui pas seulement financier mais politique et du ministre des Affaires étrangères et du chef du gouvernement quand il en avait et du chef de l'État. Et ça, c'est important pour négocier avec les autorités du pays d'accueil et obtenir de la part des interlocuteurs qu'ils vous respectent. Et puis, ce sont des gens qui ont essayé d'introduire de l'ordre dans leur maison, c'est-à-dire les ambassades. Nos ambassades à l'étranger sont souvent devenues des dépotoirs où on rencontre tout et n'importe quoi. Certains bureaux sont transformés en logements. Et ce que Mokolo a fait, et Diangoulou et d'autres ont fait ailleurs, c'est avec les maigres ressources que rapportent les services de l'ambassade, notamment les passeports, les visas, ben, et essayer, surtout dans la période de difficultés que nous avons connue, entre 98 et 2006, essayer quand même de faire en sorte que l'ambassade soit respectable. Ça veut dire des choses très concrètes, que lorsque des gens passent dans la rue, que notre ambassade, si je veux me permettre cette formule un peu vulgaire, ait de la gueule, que ça soit propre et que ce soit beau, que quand on entre dans les locaux, que ce soit propre et que si possible, des œuvres d'art, d'artistes congolais soient là et que les choses soient faites en temps et en heure, que les services ouvrent à l'heure dite et que les délais soient respectés. Donc il y a tout cela qui est véritablement important, en sachant que les communautés congolaises de l'étranger, partout où j'ai été, ont un sens patriotique extrêmement fort et sont dévoués pour aider à ce que les choses aillent de l'avant. Donc je pense que si les gens se rendent compte que le pays choisit les personnalités qu'il faut à la place qu'il faut, y compris donc parmi les consuls honoraires, je pense que nous allons assister à un mouvement général à la fois de la part des pays d'accueil et des communautés congolaises pour aller dans le sens de ce changement qui est véritablement nécessaire. Je vous dirai par exemple que j'ai beaucoup circulé en Afrique centrale en préparant le livre que j'ai écrit sur la diplomatie d'Omar Bongo. Certaines de nos ambassades sont dans un état de misère absolument insupportable. Je pense à un pays comme la République centrafricaine, donc à Bangui, face à Zongo. Nos diplomates font presque de la mendicité, c'est pas normal.
Donc,
le grand balayage qui est en train d'être fait, il me semble que c'est quelque chose qui est vraiment positif, et moi j'applaudis par rapport à ça, même si on peut dire que ça aurait pu venir plus tôt. Mais je pense
professeur,
que quand on fait du bien, il n'est jamais trop tard.
Professeur, vous n'avez pas répondu sur la situation de notre ambassade à Paris, en un mot.
Alors, l'ambassade à Paris, si je peux me permettre, donc je vais mettre les pieds dans le plat. Hein. L'ambassadeur Eddy Angoulou a dit que nous sommes passés par un moment difficile qui était le système de 1 plus 4. Ce système a eu des effets désastreux sur la diplomatie congolaise en général et sur l'ambassade à Paris, parce qu'on nous a envoyé un ambassadeur qui n'avait ni les compétences, ni les appuis politiques, ni la connaissance du pays, la France, ni la connaissance des gens, ni d'ailleurs la personnalité suffisante pour avoir l'estime des Congolais. Il était méprisé par la plupart des Congolais. Et donc ça fait que jusque en 2006, les choses sont allées complètement à volo. Tout le travail qui avait été fait auparavant, le travail donc de faire qu'il y ait des toilettes propres, des drapeaux propres, des rideaux propres, etc. Tout ça a été fichu par terre, parce que ces gens mettaient le fric dans leur poche, hein. Il faut le dire les choses comme ça se passe.
C'est
absolument scandaleux. Et donc, je crois que quand c'est comme ça, il faut donner un grand coup de pied là-dedans. Et je crois que ce monsieur est parti, on l'a remplacé par quelqu'un d'autre, un homme nouveau, qui est très prudent, qui avance à pas feutrés et qui, je crois, est dans une logique que nous soutenons et qui devrait aller dans le bon sens.
Merci, professeur. Juste rappeler que nous parlons de la restructuration et de l'assainissement de la diplomatie congolaise. Dans un communiqué de presse, le ministère des Affaires étrangères dresse un bilan amer des dossiers de certains consuls de la RDC à travers le monde
Quel est ce constat et quel est l'impact de cette restructuration dans la relance de la diplomatie congolaise? Nos invités sont Eddy Angoulou, ancien ambassadeur de la RDC en France et membre du bureau politique du PPRD, parti de la majorité présidentielle, José Nguanda, député national de l'opposition, membre du parti politique RCDM et rapporteur adjoint de la commission de relations extérieures à l'Assemblée nationale, professeur Eddy Kiambokolo, analyste politique et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris en France. Avant d'aborder la deuxième partie, le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Comment relancer la diplomatie congolaise? Pour le professeur Labana Lassayaba, une bonne diplomatie s'appuie sur les finances. Pour ce dernier, le gouvernement congolais doit fournir un grand effort pour remédier à la situation que connaît actuellement la diplomatie congolaise. On écoute le professeur Labana Lassayaba, professeur des relations internationales, au téléphone de Kelinkouté.
Pour relancer cette diplomatie, je crois que la première chose à faire, c'est de mettre des moyens à la disposition de ces missions diplomatiques. Les moyens, ça signifie que le frais de fonctionnement, le salaire et ensuite le matériel de travail. Par exemple, des ordinateurs, des téléphones, etc. Ça pourra remédier à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Une bonne diplomatie est appuyée sur les finances. Si on n'a pas les finances, nous sommes aventuriers, n'est-ce pas?
Monsieur l'ambassadeur Eddy Angoulou, on a constaté que ces derniers temps, il y a beaucoup d'ambassadeurs qui ont été nommés dans plusieurs pays. Cela suffit-il pour parler déjà de la relance de la diplomatie congolaise?
Oui, ça peut contribuer, ça c'est certain. Alors là-dessus, je voudrais dire deux choses. La première chose, d'abord, je remercie le professeur Eddy Kiambokolo, merci pour le compliment. Nous avons là honorable Nguanda qui est au Parlement, c'est une institution très importante, il est dans une commission très importante, je crois qu'il fait un travail formidable pour aider à ce que notre diplomatie puisse réluire, parce que c'est eux qui votent le budget et ils ont des directives effectivement à faire passer au gouvernement. Moi, je voudrais simplement dire, par rapport aux dernières nominations, qu'elles peuvent effectivement contribuer à changer les choses. Et là-dessus, je voudrais un tout petit peu titiller certains de nos amis qui posent des problèmes, qui sont des faux problèmes entre les ambassadeurs dits politiques et ambassadeurs dits administratifs. Ça n'a pas de sens. Mais la vérité absolue, c'est que sur des grandes places comme Paris, comme Londres, comme Washington ou Genève, il faut malheureusement des ambassadeurs du politique qui ont du poids, comme l'a dit Elika. Il faut savoir, quand vous êtes à Paris, votre collègue, c'est le prince Intel, c'est l'ancien premier ministre Intel, c'est même l'ancien secrétaire général des Nations Unies qui sont là. Ce sont des gens auxquels il faut opposer, ou opposer entre guillemets, des ambassadeurs qui, dans leur pays, ont une carte de visite, c'est-à-dire d'anciens ministres, d'anciens premiers ministres, des gens qui ont une expérience dans la gestion de la chose publique et qui, dans des négociations, ont un peu, si c'est humain, n'ont pas de complexe. Vous savez, je vous donne un exemple, notre voisin le Congo, Brazzaville, à Paris, quelqu'un qui est d'une grande respectabilité, Henri Lopez, qui est ancien premier ministre de son pays, ancien directeur général adjoint de l'UNESCO, c'est comme ça. Donc, ce qu'on appelle les ambassadeurs diplomatiques devraient comprendre que les choses se passent un peu comme ça. Donc, il ne doit pas y avoir de problèmes. Nous sommes tous au service de notre pays, la République démocratique du Congo, que nous aimons tous. Merci. Mais dès le départ, il y en a qui prennent une voie, il y en a qui en prennent d'autres, et au bout, il y a des choses qui se font plutôt d'une façon plutôt que d'une autre.
Merci, monsieur l'ambassadeur.
Voilà, je voudrais faire cette remarque parce que je crois qu'elle peut contribuer à nourrir la réflexion.
Merci beaucoup, on vous garde encore dans ce débat. Honorable José Nguanda, en plus des finances dont a parlé le professeur Labana, l'ambassadeur Eddy Angoulou ajoute le poids politique de la personne qui est désignée comme ambassadeur pour relancer la diplomatie congolaise.
Oui, je crois que le poids politique est important, d'autant plus que lorsque nous avons suivi le professeur Eli Kambokolo, nous citait le cas de cet ambassadeur qui ne connaissait pas le pays. Je crois que là, ça pose problème. Il faudrait effectivement qu'on tienne compte des secrétaires, que ça ne soit pas un novice en politique, mais quand même quelqu'un qui connaît le pays où il est désigné comme ambassadeur, et qui connaît son pays et qui a un certain agenda. Et donc, c'est une grande responsabilité. Les gens croient peut-être qu'être ambassadeur, c'est seulement d'aller travailler comme administratif. Je crois que c'est aussi de la haute politique parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays et nous devons tenir compte dans la désignation de l'ambassadeur de son poids politique et surtout pour certains pays comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique. Donc, il est important de tenir compte de cet aspect des choses.
Il y a Augustin Mwango de Kalima au Maniema qui encourage l'initiative de restructurer et d'assainir la diplomatie comme tout autre secteur, pourvu que les règles soient respectées, dit-il. Sinon, ce serait un travail inutile car la RDC n'a pas une bonne politique extérieure. Honorable José Ngbamba.
Oui, c'est comme moi, je suis un peu très réservé lorsque on parle effectivement de la redynamisation de la diplomatie congolaise. Je crois que nous observons d'abord pour voir comment les choses évoluent, parce que nous avons vu certaines personnes nous demander commencer avec de bonnes intentions et mal finir, et nous pensons qu'effectivement le ministère des Affaires étrangères, dans ce qu'il a entrepris, il y met du sérieux pour que ceux qui seront nommés puissent remplir les critères objectifs de leur nomination. Et je crois peut-être que prochainement, si nous arrivons de revoir la Constitution, je crois que pour éviter des abus, il ne serait pas interdit de proposer que même la nomination des ambassadeurs puisse obtenir un regard du Parlement, parce que je crois qu'il y va de l'intérêt de notre pays.
Professeur Eli Kambokolo, il y a Robert Baume de Bukavu, Sud-Kivu, qui pense que pour relancer sa diplomatie, la RDC devra maintenir un cadre permanent de dialogue franc et sincère avec d'autres États et surtout continuer toujours à renouveler la confiance vis-à-vis de ceux-ci. Maître Juvenal Munubi Mubi de Goma au Nord-Kivu pense que la RDC, la relance de la diplomatie congolaise passe par la formation continue des diplomates ainsi que l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
Oui, moi je pense qu'il y a, tout ça est vrai, il y a peut-être une chose qui est en amont de cela. Il me semble que c'est la volonté claire de ce que le Congo veut faire à l'extérieur. Nous sommes sortis, je pense, de la période la plus difficile de ces 10 ou 20 dernières années. Le Congo aujourd'hui est un poids lourd dans la CEAC. Il est en train de devenir presque un poids lourd dans la SADC, que c'est un pays important en Afrique, et je crois que nous devons avoir une diplomatie ambitieuse. Il ne s'agit pas seulement d'être présent dans des pays, il faut y être présent pour faire valoir ce que le Congo pèse, ce qu'il recèle, comme potentialité, et je crois que là il peut y avoir en effet un espace de dialogue entre le chef de l'État qui est le chef de la diplomatie par ses fonctions, et l'Assemblée nationale, notamment la Commission des Affaires étrangères, qui dans presque tous les pays, la Commission des Affaires étrangères et la Commission des Finances, sont deux des commissions les plus importantes dans, disons, dans la politique et la visibilité des pays. Donc c'est cette ambition-là. Qu'est-ce que nous voulons que le Congo soit à l'extérieur? Moi, je pense que l'hymne national du Congo le dit clairement. Nous sommes un grand pays. Nous devons être le numéro un en Afrique. Donc il y a l'Afrique du Sud qui est notre ami et notre concurrent, le Nigeria, l'Algérie peut-être. Donc c'est cette diplomatie de la puissance qui, derrière elle, va appeler les moyens. Je crois que le prof Laban a raison, et les moyens ne sont là que pour soutenir une ambition clairement politique.
Merci professeur, c'est aussi ça que nous considérons déjà comme votre conclusion. Honorable José Ngbanda, un mot en guise de conclusion aussi.
Disons, bien trop tard que jamais, mais nous pensons que nous observons effectivement ce que pourra faire dans les jours à venir le ministère des Affaires étrangères, et nous demandons ce que, qu'il y ait vraiment la volonté politique de transformer nos missions diplomatiques pour l'intérêt de la nation et éviter les clientélismes au sein de ce ministère. Nous pensons que
Merci.
Nous pouvons aller de l'avant.
Merci. Monsieur l'ambassadeur Eddy Angoulou, un mot juste, un mot en guise de conclusion.
Oui, un mot. Donc, nous parlons des ambassadeurs, donc nous parlons des gens qui ont une très lourde responsabilité, il faut le savoir. Ce sont des représentants des chefs d'État. Quand ils sont plénipotentiaires, ils peuvent engager notre pays dans des affaires extrêmement graves.
Merci.
Donc, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, il faut mettre du sérieux.
Merci. C'est la fin de cette émission. Guy Maté, Kevin Couté, Samuel Kachak m'ont aidé à préparer cette émission. Mise en onde de Nimi Kimbu, coordination de Ben Kabamba. Bonne suite au programme sur Radio Capi.